Bonjour, si vous aimez les livres, l'écriture, la lecture, les idées, le partage, je vous propose de nous retrouver a priori le deuxième mercredi de chaque mois pour une émission qui s'appelle « Les livres ont la parole » où on aura comme invité un libraire, un auteur, un éditeur, un lecteur aussi. Donc tous ces gens qui portent et travaillent sur le livre, sur l'écriture, sur la lecture. Donc les mercredis sur Fréquence Mistral 99.3. De 16h30 à 18h. À bientôt.
Eh bien, nous y sommes. Mercredi, bonjour Jean.
Bonjour. Oui, ben, on se retrouve quand on peut. Hein, voilà. De toute façon, les habitudes, c'est très mauvais. C'est sclérosant. Alors, ce n'est pas toujours le second mercredi de chaque mois. Aujourd'hui, justement, on parlait de recevoir des gens qui écrivent, mais aussi des gens qui lisent. Et je reçois aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui va nous parler de la lecture, parce qu'avant d'avoir des lecteurs, eh ben, il faut d'abord apprendre à lire. Et donc, on reçoit Fabrice Leboly, qui est instituteur, donc qui apprend aux enfants à lire, qui fait aussi un travail de recherche sur cette question de la lecture, parce que c'est un sujet aussi d'actualité. Il y a même les hommes politiques qui en parlent, mais eux, c'est pour se faire mousser. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours complètement intrigué. En fait, il m'est arrivé une chose dans ma vie de père de famille. Un jour, ma fille, elle avait 4 ans, et elle est venue avec un livre. Alors, on lisait souvent des livres. Elle est venue, elle m'a dit « Bon, papa, maintenant, aujourd'hui, tu m'apprends à lire. » Et je me suis aperçu que on savait pas ce que c'était, comment on apprend à quelqu'un à lire. Mmh. Je me suis trouvé complètement démuni. Alors après, il y a des spécialistes. C'est le cas de Fabrice qui va nous expliquer un petit peu comment on peut apprendre à quelqu'un à lire.
Mmh. En réalité, je suis enseignant en maternelle. Donc,
oui, mais c'est pour ça, ça commence là.
Hein. Au cours des 10 dernières années, je me suis surtout occupé d'enfants de 3 et 4 ans, justement. Et dans les programmes officiels, on apprend à lire en principe à partir de 6 ans au CP, en arrivant au CP. Ça, c'est des choses qui dépendent un peu des cultures nationales. Il y a certains pays où on apprend très tôt, d'autres où on attend beaucoup plus longtemps. Et dans les pays du Nord, notamment, qui ont bonne presse, comme la Finlande, l'Allemagne, etc., on apprend plus tard, le plus tard possible.
Voilà. Ah bon.
Il faut d'abord avoir envie d'apprendre, il faut d'abord avoir envie d'aller à l'école. Et c'est un peu, disons que c'est un peu la grande direction donnée maintenant dans les derniers programmes. Il y a de nouveaux programmes qui sortent là pour l'école élémentaire à la rentrée 2016 et de nouveaux programmes pour la maternelle qui datent de 2015.
D'accord.
Et on met surtout l'accent sur l'envie d'apprendre. Voilà. Et c'est aussi valable pour l'apprentissage de la lecture. Voilà. Mmh. Un enfant à qui on voudrait apprendre à lire, mais qui n'en aurait pas envie, aurait beaucoup de mal.
À coup de règles en fer. Voilà. Oui. Donc c'est très important, cette envie d'apprendre. Mais alors, ça se déclenche comment? Parce qu'on dit de plus en plus tard, si ça ne vient jamais. Mmh. Comment vous, dans votre travail d'instituteur de maternelle, ouais, comment on déclenche l'envie? On montre des choses. Il y a d'abord les images. Les enfants, ils sont très vite sensibles aux images. Ils y lisent quelque chose. De toute façon, on lit dans les images aussi.
Mmh. La littérature de jeunesse, maintenant, est suffisamment développée pour qu'on puisse proposer des livres de grande qualité à des tout petits enfants. Dès l'âge de à peine 2 ans, on a maintenant des collections entières de livres qui d'abord sont manipulés un peu dans tous les sens, oui, tournés, retournés, parfois un peu déchirés, maltraités. Et c'est un premier pas. Il faut savoir que les enfants ont naturellement envie d'apprendre, mmh, sous la forme du jeu, dans un premier temps, et pas sous la forme, évidemment, scolaire. Mmh. Voilà. Et en maternelle, on a encore cette possibilité, on est encore dans la situation où on peut profiter de ce désir de jouer, pour donner envie de lire, donner envie d'écouter, ce qui est très difficile dans un premier temps à l'école, voilà, pour les tout petits.
D'accord, mais alors, une chose aussi qu'on fait en tant que parent ou éducateur, c'est qu'on lit à leur place des livres qui souvent nous demandent. Enfin, on fait très souvent de la lecture à la demande. Mmh. Les enfants, que ce soit aux propres enfants ou d'autres, vous apportent un livre en disant bah, « tu me lis l'histoire ». Souvent, ils la connaissent déjà par cœur. Mmh. Moi, je m'amuse toujours quand je lis une histoire que les enfants connaissent. à changer des choses. Alors, ils me reprennent aussitôt en disant, mais non, c'est pas ça. Voilà. Donc déjà, lire, est-ce que c'est déjà participer à ce désir d'apprendre à lire? Voilà.
C'est quelque chose qu'on pratique très souvent à la maternelle. On appelle ça, nous, la lecture offerte.
D'accord.
Alors, on peut parfois choisir nous-mêmes un livre. On peut parfois demander à l'enfant de choisir un livre. Il ne le choisit pas toujours bien. Alors, on lui explique qu'on va avoir du mal à lui lire. Il y a trop d'images, c'est compliqué, trop de textes. Il faut savoir que dans toutes les classes de maternelle, sauf exception, il y a des coins livres. Mmh. C'est-à-dire des coins qui sont en général confortables, avec un petit canapé ou un coussin. Et puis des bacs à livres. Voilà, des livres qui sont sélectionnés par les enseignants et qui conviennent à l'âge de la classe en question. Donc dans ma classe, moi je travaille au Mai, à l'école maternelle des Mai. J'ai des enfants de 4 ans, justement, des enfants qui cette année sont nés en 2012. Et j'ai un coin livre avec, avec des livres qui sont vraiment faits pour les plus petits, les plus jeunes, avec pas beaucoup de pages, pas beaucoup de textes, d'autres qui sont déjà plus élaborés, dont des classiques comme par exemple Max et les Maxi Monstres, qui est, qui est un des plus beaux livres de la littérature de jeunesse, un classique. Voilà. Et les enfants les regardent, disons, spontanément. Voilà, ils sont attirés par certains livres ou d'autres, et il n'y a pratiquement pas d'exception. Ils ont tous ce désir d'avoir un livre entre les mains d'abord, et puis qu'on leur lise. Voilà.
D'accord. Et alors, il y a aussi, parce que bon, ils n'accèdent pas à l'histoire écrite, mais par contre, accédant aux images, ils sont capables d'inventer l'histoire quasiment. Mmh. Alors justement, on parlait hors antenne de ce fameuse histoire du petit bleu et du petit jaune, qui sont des bouts de papier déchirés, à partir de laquelle on bâtit une histoire.
Ah oui, ça, ben ça c'est justement un des classiques de la littérature de jeunesse sur lequel j'ai assez travaillé. On appelle ça un album codé. C'est vrai qu'on peut émettre l'hypothèse que cet album codé, donc c'est un album de Léo Lioni qui est paru en 1959. Moi je dis parfois que Léo Lioni, dans ce livre, a voulu réinventer l'écriture. C'est-à-dire qu'avec des moyens très primitifs, il a symbolisé à nouveau le langage. Parce que, bon, en termes techniques, l'écrit, c'est jamais qu'une manière de symboliser, de coder la langue orale. Donc c'est ce qu'on fait là dans ce livre, et on a effectivement toute une histoire qui se déroule sous forme codée, sous forme symbolique, mais qui est déjà lisible par les enfants les plus jeunes, parce que un bout de papier jaune et un bout de papier bleu, c'est en réalité deux enfants à qui va arriver des choses, à qui va arriver une histoire, et on peut suivre cette histoire facilement. Le tout petit peut déjà très jeune émettre des hypothèses sans qu'on lui lise l'histoire sur ce qui est en train de se passer là. Et puis il y a l'histoire écrite qu'on peut lire effectivement, donc on a deux codages dans ce livre là voilà. Un double codage,
donc on a accès donc directement avec les mais ça on le retrouve dans tous les livres, n'importe quel enfant peut s'inventer une histoire à partir d'images dont il tourne les pages, d'un livre dont il tourne les pages.
Oui, alors après La complexité de l'album de jeunesse fait qu'on a, on peut aussi avoir des jeux de décalage entre ce qui est écrit, ce qui est montré. Oui. Tout n'est pas si explicite. Il y a aussi des blancs qu'il faut savoir combler quand on est un lecteur expert. Voilà, c'est ce qu'on appelle les inférences en langage technique. Dans le cas de Petit Bleu et Petit Jaune, on a quelque chose d'assez transparent, même si l'histoire elle-même demande à être interprétée, parce qu'elle est, elle est tout de même assez troublante. La scène qui pose problème dans Petit Bleu et Petit Jaune, c'est le moment où Petit Bleu et Petit Jaune sont tellement contents de se retrouver qu'ils s'embrassent. Ils s'embrassent si fort qu'ils deviennent tout verts. Et on est un seul personnage formé de deux enfants. Là, bon,
un bleu et un jaune.
Voilà, on se pose pas mal de questions sur ce qui se passe, sur ce qui est arrivé là. Voilà. Après, je pense que c'était, pour Lioni, de la part de Lioni, c'était une manière de réinventer l'écriture, sachant que chez l'enfant, même le plus petit, il y a un désir de langage, un désir d'histoire, en réalité un désir de culture. À l'école maternelle, on est déjà en train de se poser des grandes questions de l'humanité, le bien, le mal, le juste, l'injuste, l'égalité entre les individus. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Bon, voilà. Donc, avec Léo Lioni, on a aussi donc, cette dimension-là de, d'une entrée dans la culture déjà par la littérature. Voilà.
Bon, eh ben on va continuer. On va écouter d'abord un petit peu de musique.
Thank you.
Oui, ben, on vient d'écouter, c'est pas facile comme morceau, mais c'est une guitariste qui s'appelle Kaki King, alors je sais pas si je prononce bien, qui est une américaine. Elle fait des choses très différentes. Là, c'est un peu plus hard, mais elle fait aussi des choses très, je dirais, acoustiques. Elle a une approche de la guitare qui est assez étonnante. Et je vous invite à aller voir un peu. Elle a en particulier travaillé pour un film qui s'appelle Into the Wild. Et donc, elle fait des choses parfois très, très douces. Là, c'était un petit peu plus violent. On n'a pas forcément choisi le bon morceau, mais c'est quelqu'un à découvrir. C'est une de ces femmes guitaristes super dont on dispose aujourd'hui. Voilà. Donc on revient à notre travail sur la lecture. On a vu donc qu'au niveau des plus jeunes enfants, il y a d'abord une prise en main du livre. Quoi. C'est un objet qu'on touche, qu'on déchire, hein, vous disiez tout à l'heure. Et puis après, il y a cet aspect un peu plus de travail pour apprendre à lire. Donc ça, c'est après, c'est au CP. Et on passe dans une phase plus technique. Mais on a vu que ce qui était important au départ, c'était d'avoir l'envie de... Ouais. Alors, est-ce que c'est pour ça que, vous en parliez tout à l'heure, au début, on recule dans un certain nombre de pays, la date de l'apparence du travail technique.
C'est la principale raison. Ouais. C'est la principale raison pour laquelle, dans certains pays, on attend le plus possible, considérant que si l'enfant n'a pas la motivation, on ne pourra pas lui apprendre, même si la maturité... presque neurologique pour retenir, mémoriser. Si le désir n'est pas là, ça ne se fera pas. Voilà. Et c'est vrai que ça a posé problème aussi au niveau des programmes. Il faut savoir que, ça je crois que c'est un point intéressant, il faut savoir que l'école maternelle pendant très longtemps a été une école où on accueillait surtout l'enfant sans avoir de très grandes prétentions proprement scolaires. Mmh. Voilà. Et depuis, disons, les années 80, l'école maternelle a été de plus en plus conçue comme une école, justement, mmh. où on scolarise l'enfant et où on a des objectifs d'apprentissage très, très affirmés. C'est pour ça, d'ailleurs, que pendant très longtemps, je sais pas, au cours des 30 dernières années, quoi, la grande section, donc la dernière année de maternelle, commençait l'apprentissage de la lecture, faisait partie de ce qu'on appelait le cycle 2, grande section, d'accord. CP, CE1. Or, les programmes de 2015 sont revenus là-dessus. La grande section, maintenant, ne fait plus partie de ce cycle 2. Et donc, on ne commence plus vraiment l'apprentissage de la lecture en France, en grande section. On l'a reculé au CP. C'est une réalité que si on n'a pas... Moi, ça m'est arrivé, personnellement, j'ai déjà eu des CP. Ça m'est arrivé d'avoir un enfant qui avait eu de mauvaises expériences à l'école maternelle, qui était un enfant pourtant dont les parents étaient très ouverts, tout à fait prêts à lui lire des livres. Et il refusait d'apprendre à lire. Voilà, il refusait. Ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière. On est complètement démunis. On peut tourner le livre dans tous les sens. On peut chercher toutes sortes de remédiations. Le désir n'est pas là, une sorte de blocage qu'il faudrait pouvoir surmonter. C'est pour ça qu'on passe d'abord par la motivation. Il faut comprendre que au CP, les apprentissages sont tout de même très fastidieux. Si le désir d'apprendre à lire n'est pas installé, c'est des séances où jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'enfant est confronté à un signe auquel il faut faire correspondre un son. Et s'il n'y a aucun sens derrière, s'il n'y a aucun désir de lire une histoire, on voit mal comment l'enfant va s'investir dans ce type d'apprentissage.
On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ouais.
Voilà.
Donc c'est vraiment
c'est
important.
C'est l'estin
freiné. Oui. C'est important cette histoire de désir, comme c'est pour tout, de toute façon, pour absolument tout. Mmh.
Voilà. Donc comment donner le désir de lire à un enfant? Bien sûr, c'est en lui lisant des histoires, en lui racontant des histoires. Il y a pas que le livre. Il y a aussi les histoires orales, les contes traditionnels, oui. Les contes de Grimm. Tout ça c'est présent dans les programmes, c'est raconté au quotidien aux enfants, le petit chaperon rouge. Voilà. Parce que la lecture, finalement, c'est rien d'autre que se raconter à soi-même une histoire, mais que quelqu'un pourrait vous lire ou qu'on pourrait entendre sans la lire. Mmh. Voilà. Et effectivement, ce désir d'autonomie de l'enfant, il est toujours présent. Alors, qu'est-ce qui fait, malheureusement, que ça n'a pas fonctionné pour certains ? C'est la seule question que doit se poser un enseignant.
Oui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'arrêtent pas, qui viennent tout le temps. Alors, on leur lit une histoire le soir, surtout pour... Puis ils en veulent une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Donc, effectivement, il y a ce désir d'acquérir du sens des histoires. Et effectivement, très vite, c'est ce qui était passé avec ma fille. Comme on n'arrivait pas à suivre avec son désir d'avoir des histoires, elle voulait être autonome. C'est pour ça qu'elle dit, apprends-moi à lire, comme ça je vais me débrouiller toute seule, je me sers toute seule. Voilà. C'est sûr que
et à contrario, pour l'enfant qui a tellement envie d'apprendre, toute la dimension, technique du décodage, de la correspondance à faire entre un signe et un son, se fait presque naturellement. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas le sentiment de peiner, l'enfant n'a pas le sentiment de faire des efforts pour retenir toutes ces correspondances. En passer par l'alphabet, le principe alphabétique... Ça se fait tout seul. On dirait qu'il est comme aspiré par le désir de symbole, le désir de sens, le désir de signification. Voilà. Et toute la dimension technique ne pose aucun problème pour ces enfants-là. Il y a des enfants qui apprennent tout seuls, pratiquement à 3, 4, 5 ans. Et les adultes, un jour, les voient, sont surpris de les voir lire tout seuls.
Ils ont appris tout seuls.
Ils ont appris tout seuls parce que le désir de sens... était le plus fort. Voilà.
Bon, alors, si on parle aujourd'hui du fait que les gens lisent pas, aussi chez les adultes, je crois que le manque d'envie est le principal moteur. Les gens qui ont nécessité, on voit les gens lisent parce qu'ils ont besoin soit de s'informer, soit de se former. Hein. Je veux dire, même chez les adultes qui veulent changer de compétences, ils sont obligés de lire des documents. Et à ce moment-là, ils ne se posent pas la question. Il y a des gens qui disent « moi, je ne lis jamais ». Enfin, ils disent que ce qui est nécessaire pour eux, pour évoluer, pour acquérir une profession ou pour accéder... Sinon, on est devant la porte. On parlait tout à l'heure avec une personne de personnes immigrées. Ils ont une volonté féroce d'apprendre le français, bien qu'ils sachent lire dans leur propre langue, parce que c'est une nécessité vitale pour eux. Ils ne se posent pas de questions de savoir si c'est compliqué, pas compliqué. Ils veulent apprendre. Quoi.
Je crois qu'il n'y a pratiquement aucune exception chez l'enfant, sauf handicap, sauf difficulté gravissime. Il n'y a aucune exception. Un enfant a envie qu'on lui parle, un enfant a envie de parler, un enfant a envie qu'on le fasse entrer dans les histoires. Voilà, c'est un des grands principes, si vous voulez, de l'enseignement. Tout enfant est capable d'apprendre et tout enfant a le désir d'apprendre. A priori, c'est une condition, ça fait partie de la condition humaine, pratiquement. Voilà.
Et après, après c'est de la technique.
Malheureusement, tous les enfants n'apprennent pas tout seuls et il faut en passer par une phase de technique. Voilà. Donc en France, ça se passe maintenant autour de l'âge de 6 ans au CP et c'est un apprentissage très systématique. Bon, il y a des manuels et ça repose évidemment sur l'alphabet, sur les correspondances, sur les sons simples, complexes, etc., qui doivent être passés en revue au cours d'une année. En principe, ça n'est pas déconnecté du plaisir de lire. L'enseignant au CP continue à lire des histoires, des albums. Donc c'est vrai que beaucoup de gens qui n'y connaissent rien parlent des bonnes vieilles méthodes, la méthode syllabique, etc. Il y a même dans le commerce pas mal de méthodes des années 50 qui sont en vente pour les parents. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si on lâche sur le désir de lire et sur le désir de faire lire, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Mais il y a cette dimension technique, c'est vrai. qui est assez fastidieuse. C'est pour ça qu'il faut mettre le paquet en maternelle sur le plaisir d'apprendre, le plaisir d'être ensemble. On apprend aussi ensemble, on écoute ensemble, on réagit ensemble. Et c'est très important pour les enfants. Voilà.
Alors, il y a aussi, on s'aperçoit, ils donnent des statistiques, ils disent en sortie de primaire, il y a moitié des enfants qui sont illettrés. Enfin,
non,
je sais pas.
Moitié, non. Non, non, les, on dit quoi, entre 15 et 20 % voilà. d'enfants qui sont en difficulté à voilà. la sortie.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des enfants qui ont bien assimilé la technique. C'est-à-dire, ils savent lire les syllabes parfaitement, reconnaître les syllabes, mais ils reconstruisent pas forcément le sens.
Bien sûr.
Parce que bon, il y a comment ça se passe ça ? En fait, c'est assez. Comment on sait comment ça se passe ?
Bah, c'est ça revient à dire un peu la même chose. Si le désir n'est pas là, on peut apprendre de manière mécanique, mais en réalité, on n'apprend pas vraiment parce que. Sans motivation, on ne s'investit pas. Sans motivation, on ne s'approprie pas le texte. Il faut comprendre, si on a un tout petit peu de recul, qu'un texte, c'est quand même quelque chose de pas très vivant. Et le texte a besoin du lecteur. Si le lecteur n'est pas entièrement impliqué dans sa lecture, on n'arrivera à rien. Et c'est ce que vous décrivez. C'est ce que vous décrivez, des enfants qui connaissent les correspondances entre les signes et les sons, mais qui ne savent rien en faire. Donc, on s'est acharné. C'est une définition de l'illettrisme. Oui, ils sont allés à l'école, on leur a appris à lire, mais ils ont oublié. C'est pas qu'ils ont oublié, c'est qu'ils n'ont jamais su comprendre ce qu'ils lisaient, malheureusement. Voilà.
Ah, c'est terrible.
À la différence de l'analphabétisme, on n'a jamais appris à lire. L'illettrisme, on a été confronté à la dimension technique de la lecture, mais en l'absence de plaisir et d'investissement personnel, l'apprentissage ne s'est jamais effectué.
Oui. Voilà. Comme il n'y a pas d'auteur sans lecteur, il n'y a pas de lecture sans l'humain. Quoi.
Exactement.
Le texte, c'est mort.
C'est une affaire de désir.
Oui, oui.
Ouais. Voilà.
Un peu de musique. Donc là, on vient d'écouter Bombino, qui est un musicien touareg du Niger, hein, qui est considéré comme le Jimi Hendrix de là-bas, du désert. Et donc, voilà, il fait aussi des choses très intéressantes. Il a un toucher de guitare que je trouve intéressant, comme beaucoup de musiciens du touareg. On en a dans ces différents pays qui touchent au désert. Voilà. Mmh. Donc, on revient avec notre invité, donc Fabrice Lebeli. Et donc, on parlait d'envie, on a parlé de cet apprentissage de la lecture, ces difficultés qu'ont parfois certains enfants, de ces méthodes qui évoluent. Hein. On a vu qu'on essayait de retarder le travail technique de la lecture. Mmh. Alors, il y a une chose aussi, on parlera d'un autre sujet après, mais l'écriture.
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Est-ce que les deux vont ensemble ou pas?
Ouais, oui. Ouais, c'est très intéressant. Une des dimensions toutes nouvelles dans les programmes de maternelle, c'est justement de faire écrire les élèves ou alors les enfants, puisqu'ils sont en train de devenir élèves, de les faire écrire, c'est-à-dire de leur faire coder l'oral, alors même qu'ils ne savent pas lire et qu'ils n'ont pas les moyens, les moyens techniques, oui, d'écrire. Justement, parce qu'il faut que l'enfant, dans son trajet vers la maîtrise de la lecture, il faut qu'il comprenne que l'alphabet, les signes écrits servent à coder l'oral. Voilà. Et donc, encore une fois, l'enfant a le désir de s'exprimer, l'enfant a le désir de parler, et on voudrait lui faire franchir cette étape de mettre en œuvre le désir d'écrire, c'est-à-dire de pouvoir communiquer, de pouvoir penser dans des conditions encore plus importante en lui proposant d'écrire. Oui, voilà, oui, on peut demander à un enfant de 5 ans qui n'a jamais appris à lire, comment tu pourrais commencer un mot que tu écrirais à ton papa? Oui, voilà, ton papa n'est pas là, tu veux dire quelque chose. Alors, tu vas commencer par écrire papa, tu fais quoi? Voilà. Ça, c'est dans les programmes, ça s'appelle la production d'écrit, production autonome d'écrit. Dans la didactique de l'apprentissage de la lecture, on préconise que en même temps qu'on apprend à décoder, eh bien, on fasse écrire l'enfant, on lui fasse produire de l'écrit, alors même qu'il n'en a pas les moyens. Mmh. Mais le désir étant plus fort que tout, ben, il va trouver des moyens, il va coder phonétiquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas segmenter peut-être sa production en mots, mais il va produire quelque chose qui sera lisible, qui pourra être décodé par un adulte, voilà, ou par un autre enfant éventuellement. Voilà, historiquement, on a inventé l'écriture pour accroître les possibilités de penser et de communiquer. Voilà, c'est dans l'histoire de la culture, l'écriture sert à ça. Parce que on peut laisser une trace qui sera lisible par des gens à des époques ultérieures. On peut envoyer un message à quelqu'un qui est très très loin. Et ça, c'est assez fabuleux, c'est miraculeux. Voilà. Oui. Et l'enfant lui-même peut connaître cette expérience dès le plus jeune âge de l'invention, de la réinvention miraculeuse de l'écriture.
Oui, oui, oui. Voilà. Bah oui, s'il veut laisser un message à son papa, voilà, il est obligé de passer par là, surtout son papa, et s'il est loin.
Voilà, exactement.
Voilà. De toute façon, il est forcément loin quand on est à l'école, il n'est pas là.
C'est ça.
Donc si on veut lui parler en décalage...
Sachant que maman est un peu plus difficile, parce qu'il y a ce son en, à N, qui ne va pas de soi... Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle un son complexe, parce qu'on a besoin de deux lettres
pour faire un son.
Voilà.
D'accord. Bon, alors, mais l'écriture dans ce cas-là, c'est pas du dessin. On n'est pas dans
le
dessin.
On est dans le jeu peut-être. Dans l'histoire de l'écriture, il faut bien distinguer justement, bon, de manière très schématique, on considère que les premières formes d'écrit relèvent du dessin. C'est c'est encore présent, par exemple, dans les idéogrammes chinois. C'est la distinction qu'on peut faire entre pictogramme et idéogramme. Hein, le pictogramme, c'est le dessin d'une chose. Le signe écrit n'est jamais que le dessin de la chose. On voit ça aussi dans les hiéroglyphes. Et puis, à un moment donné, on passe à l'idéogramme, qui, lui, figure de manière symbolique.
Oui.
C'est-à-dire abstraite, c'est-à-dire de manière conventionnelle, sans lien réaliste, figuratif, à ce qui est désigné, à ce qui est signifié.
Oui. Ben, dans Thermodynamique de l'évolution, nos auteurs, donc François Rodier, parle de l'écriture et dit que bon, le A Le A majuscule, c'est, ça représente une tête de taureau avec les cornes, si on la retourne, avec les cornes. Et voilà, c'est aussi parce que les premiers mots qu'on a utilisés, c'était les mots pour compter éventuellement les troupeaux, etc. Enfin, je veux dire, c'était une nécessité aussi.
Après justement, l'économie de l'alphabet qui est utilisée aujourd'hui est optimale, parce qu'on a 26 signes avec lesquels on peut former tous les mots à l'infini. Ça se passait pas comme ça dans les premiers temps, notamment chez les Égyptiens. Il y a des dizaines, des centaines de hiéroglyphes possibles. Et c'est très compliqué, justement. C'est encore tâtonnant, c'est pas au point. Et avec l'alphabet utilisé aujourd'hui, effectivement, avec une très grande économie de moyens, on peut tout dire, tout écrire. Voilà.
D'accord.
On en est là. Mais bon, l'enfant, dans sa réinvention de l'écriture, passe justement par des étapes qui correspondent à l'évolution de l'humanité. Voilà.
Donc, pour l'apprentissage de la lecture, on commence par écrire. C'est ça qui est étonnant, quoi. On est en train de...
C'est préconisé.
Préconisé.
C'est préconisé. Après, c'est suffisamment difficile pour que ce soit... Ça pose problème à certains enseignants, à beaucoup d'enseignants, moi le premier. Parce que, en réalité, c'est compliqué par le fait que l'enfant, malgré tout, doit pouvoir tracer les lettres, doit pouvoir avoir automatisé ce tracé des lettres. Et ça, c'est pas vraiment acquis avant la fin de la moyenne section. Voilà. Donc, on en est là.
Donc, voilà. Donc, quand même, si on peut résumer, on peut tourner, virer, comme on dit, dans tous les sens. Le principal moteur de tout ça, c'est l'envie, quoi.
Ouais, exactement. Le désir de communiquer, le désir de se faire comprendre, le désir de comprendre aussi autrui. Voilà.
Oui, c'est à la fois un désir et une nécessité, parce que sinon on reste complètement isolé.
Exactement, mais c'est une nécessité. C'est aussi peut-être un aspect anthropologique, quoi, de la condition humaine. Voilà, l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin de l'autre, il a besoin de se faire comprendre et de le comprendre. Voilà. Et l'écrit est le meilleur moyen pour ça. Oui.
Voilà, donc d'où l'intérêt d'apprendre à lire et à écrire. Voilà. Mais bon, ça ne se commande pas, on voit, ça ne se commande pas. Et on a beau, parce qu'on entend toujours des gens se révolter parce que les autres ne lisent pas. Et je ne comprends pas, mon fils ne lit pas, alors que nous, on lit tous dans la famille, il y a plein de bouquins partout. C'est quelque chose qui ne se commande pas, il y a eu un raté quelque part.
Ouais, exactement.
Et voilà, et on ne peut pas revenir à coup de règles en fer pour leur apprendre à lire et à écrire. Voilà, donc le désir et la nécessité. Alors justement...
Moteur.
Moteur, voilà. Moteur, comme on dit au cinéma. Et, on a appris plein de choses aujourd'hui. Je voulais aborder un autre sujet, parce que vous êtes un lecteur, hein, aussi enseignant, mais aussi lecteur pour vous, et quelqu'un qui a envie aussi de découvrir des choses. Et vous avez repris des études, vous prenez des trains de nuit pour aller apprendre, réapprendre, refaire des études. Ouais. Et à partir de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais c'est vrai que c'est une dimension du métier d'enseignant qui est assez déterminante. Pour enseigner, il faut avoir soi-même appris. Et c'est vrai que la passion de la lecture...
Un mauvais retour.
La passion de la lecture est aussi un puissant moteur dans le désir d'enseigner. Moi-même, oui, j'ai toujours beaucoup lu. J'ai lu des textes compliqués, j'ai lu des textes difficilement lisibles de philosophie, de poésie allemande. Et il y a quelques années, j'ai décidé de reprendre des études, donc de me replacer dans la position d'élève moi-même. Et je me suis inscrit à l'université de Strasbourg où j'ai effectué un travail sur l'auteur assez fameux qui s'appelle Friedrich Hölderlin. Voilà.
Donc, mais c'est donc une autre langue, c'est l'allemand là.
Oui, c'est un auteur allemand, mais qui est
traduit.
Très 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 célèbre. Il y a toutes sortes de traductions en français. Il y a une édition de la Pléiade qui est déjà un peu ancienne de ses œuvres, Friedrich Hölderlin, qui date de 1967, mais qui a sans cesse été traduit, retraduit. C'est l'archétype du poète génial. C'est la figure qu'on connaît en France, notamment sous la forme de Baudelaire. Il est le premier ou un des tout premiers dans l'histoire de la littérature mondiale à incarner cette figure. Et c'est le poète génial, fou, incompris, qui ne peut pas vivre au milieu de ses semblables. Il a passé la moitié de sa vie interné et il a été peu connu de son vivant et redécouvert au début du XXe siècle. Où là, on lui a carrément consacré une sorte de culte en Allemagne. On l'a mis sur un piédestal. Des gens de tous bords ont cherché à s'attribuer son héritage, et notamment les nazis. Il existe une édition du Front pour le centenaire de sa mort qui avait été distribuée à tous les soldats de la Wehrmacht, pour le grand désespoir de ses lecteurs de gauche. Et d'extrême gauche qui étaient nombreux. Voilà, donc c'est un champ de bataille, Hölderlin. On pourrait en parler pendant des heures et des nuits. En Allemagne, il existe deux grandes éditions, mais considérables, avec des dizaines et des dizaines de tomes, alors qu'il a finalement relativement peu écrit. Parce que c'est très difficile d'établir ses textes, c'est très difficile de savoir ce qu'il pensait vraiment. On en est encore à se demander ce qu'il avait dans la tête. Voilà. Et moi-même, j'ai voulu contribuer à ce débat. J'avais mes propres idées que, effectivement, j'ai pu défendre et commencer à défendre sous forme d'articles et de rencontres avec les gens que ça intéresse, qui sont assez peu nombreux en France, mais qui existent. Voilà.
Mais donc, alors, avant de pouvoir justement débattre, etc., on creuse. C'est-à-dire, ouais. il faut lire tous ces textes dans la langue d'origine ou pas ?
Il faut pouvoir se référer aux textes d'origine. Moi, je ne suis pas proprement germanophone. Pour moi, l'allemand, c'est une sorte de langue morte. Je l'étudie comme j'ai étudié le latin. Il faut savoir qu'on a la chance. Je vous parlais tout à l'heure de deux grandes éditions de Hölderlin en allemand. On a la chance d'avoir une édition entièrement disponible sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'édition de Stuttgart, qui a été mise en ligne par une bibliothèque allemande. Donc on a des milliers de pages qui sont accessibles sur Internet. Voilà, c'est utile de s'y référer quand on étudie Hölderlin en France.
Alors comment ça s'écrit son nom ? Parce qu'après, quand Hölderlin, on cherche...
alors c'est Hölderlin. Hölderlin Friedrich.
Voilà. D'accord. Donc on a la chance donc c'est disponible sur Internet.
Ouais, c'est disponible sur Internet.
En accès libre.
Ouais. En accès libre. Et oui, parce qu'en fait cette édition était à peine achevée qu'une édition concurrente prétendait établir le texte plus fidèlement. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui la première grande édition des œuvres complètes est disponible sur Internet. Voilà.
Donc, à nouveau, c'est l'envie qui fait qu'on se met à lire.
Ah bah, Hölderlin, c'est l'histoire, effectivement, d'un désir de... Il est lié à toute l'histoire du XXe siècle allemand. Il est lié à de grands débats politiques, philosophiques. Il est lié notamment à l'œuvre de Heidegger, qui est reconnu aujourd'hui comme un des plus grands penseurs du XXe siècle. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit opposé farouchement, parce qu'on sait qu'il a été nazi, on sait qu'il a été au moins proche du mouvement nazi et qu'il ne l'a jamais complètement désavoué. Hölderlin, à un moment donné, devient l'interlocuteur principal, le seul interlocuteur pratiquement de Heidegger. Heidegger, c'est quelque chose d'inévitable dans la philosophie contemporaine.
Mais bon, par contre, quand on lit Hölderlin, est-ce que je dirais dans ses écrits, qu'est-ce qu'on trouve ? Est-ce qu'on trouve une apologie du nazisme ou
pas du tout. Non. Alors c'est un contemporain de la Révolution française. Il est né en 1770. Il a 20 ans au moment où la Révolution française éclate. Il était lui-même, il appartenait à un milieu bourgeois relativement favorisé et il était en formation pour devenir pasteur. Et il n'a jamais pu exercer le métier de pasteur. Il était fasciné par la Révolution française. Il a même fait un voyage en France. Il a été recruté comme précepteur par une famille allemande de Bordeaux. Il a traversé la France à pied par amour de ce pays et de la Révolution française. Et bon, moi, je fais partie des lecteurs qui considèrent que Hölderlin est un auteur qu'il faut comprendre dans le sens de l'émancipation, dans le sens des lumières, dans le sens d'une critique de la théologie. Pour Heidegger, c'est une sorte de prophète de la nation allemande et de la renaissance des dieux, voilà, de manière un peu, disons, douteuse, à mon sens. Voilà. Mais chez lui, on trouve, effectivement, on trouve du nationalisme, mais à replacer dans le contexte du nationalisme ou du patriotisme qui existait en France au moment de la Révolution. On trouve des choses... après, il faudrait pouvoir lire ses poèmes. Il y a des poèmes qui sont pratiquement incompréhensibles, où on exalte effectivement l'Allemagne, la Germanie, etc., qui sont pratiquement incompréhensibles de nos jours si on s'en tient à la lecture du XXe siècle. Voilà, c'est pour ça que moi, je me suis à un moment donné impliqué à titre personnel et comme lecteur de Hölderlin pour, d'une certaine manière, m'inscrire en faux contre la lecture... disons, fascisante ou réactionnaire de Hölderlin. Pour moi, c'est un auteur révolutionnaire.
Voilà. D'accord. Voilà. Mais pour pouvoir défendre ce point de vue-là, il faut connaître bien
les textes. Ouais, il faut connaître les textes. Il faut savoir que c'est un sujet de débat. Est-ce que lui-même était... Il s'inscrit dans ce grand mouvement du romantisme allemand, qui est un mouvement très complexe et où on trouve effectivement le meilleur comme le pire, où on trouve des tentations effectivement réactionnaires, mais aussi un désir d'émancipation. Mais c'est tout le problème de Baudelaire en France. Baudelaire est-il un auteur réactionnaire ou est-il un auteur qu'on peut considérer comme révolutionnaire.
Et Rimbaud, etc., avec et ce Rimbaud, qu'il a fait dans la deuxième partie de sa vie, on peut se demander, c'est parfois des gens qui sont tout simplement eux-mêmes et très égocentrés. Hein.
Oui, ça, c'est une des dimensions du romantisme. Justement, le romantisme allemand exalte évidemment la subjectivité, mais ça va avec la culture de ce temps, ça va avec la philosophie de Kant, voilà, qui est une suite de Descartes. Voilà, Descartes n'est pas allemand, mais Descartes dit je pense donc je suis. La question de l'ego est là. Chez Kant, c'est aussi une dimension qui est essentielle, le sujet, la subjectivité. Et le romantisme allemand est une traduction en littérature de cette philosophie kantienne. Voilà. Donc c'est l'exaltation du sujet, c'est vrai. Voilà.
Bon, ben on l'apprend. Eh ben alors, on va se mettre encore un petit peu de musique.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm,
un peu Dire Straits, Brothers in Arms, voilà. Donc on retrouve notre invité, donc Fabrice Leboly. Alors justement, on revient à cette histoire d'apprentissage de la lecture, et il y a aussi, alors il y a l'envie de celui qui doit apprendre, qu'il soit enfant ou adulte, mais il y a aussi un environnement qui peut être celui des parents, mais celui des enseignants. Il faut aussi montrer on aime lire aussi et que ça a de l'intérêt, quoi.
Bien sûr, c'est l'ambition des programmes, c'est l'ambition de l'école, que d'offrir aux élèves ce dont ils ne pourraient pas bénéficier à la maison, notamment pour les plus jeunes, de lecture offerte, d'un désir de lire qui ne serait pas celui des parents. C'est un classique de la sociologie de l'éducation que des tout-petits arrivent à 2 ou 3 ans à l'école et sont déjà dans des situations très inégales par rapport à l'accès aux livres. Certains parlent déjà, à certains on a déjà lu beaucoup d'histoires, et à d'autres pas du tout. À d'autres on ne parle pas tellement, à d'autres on n'offre pas de possibilité de dialogue. Donc c'est l'école qui est censée remédier à ces manques. Après, le mystère du désir d'apprendre est un peu du même ordre que le mystère du désir d'enseigner, le désir de lire chez tel ou tel enseignant. Voilà. Qu'est-ce qui motive un enseignant ? C'est aussi une question. Voilà.
Donc tous les enseignants n'aiment pas lire, forcément.
Il semblerait que, comme je vous le disais hors antenne, En 2002, les programmes pour l'école maternelle et l'école élémentaire ont institué un domaine qui s'appelait la littérature, tout simplement littérature. Il existe des listes officielles de livres recommandés à la lecture dès la maternelle et jusqu'au CM2 et au-delà. donc des livres qui ont été sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale et qui sont des classiques, qui sont des livres de la littérature pour la jeunesse contemporaine. Voilà, autant de d'incitations pour les enseignants de lire et de faire lire. On s'est rendu compte que certains enseignants, tout simplement, n'aimaient pas tellement lire eux-mêmes. Mmh. Voilà.
Et donc les enfants, ils le sentent.
Les enfants le sentent. Je pense que c'est une des difficultés du métier d'enseignant. C'est un métier qui s'apprend. C'est un métier qui, pour lequel on n'est pas très très bien formé en France aujourd'hui. Voilà, notamment enseigner en maternelle, ça s'apprend pas tellement de nos jours dans ce qu'on appelle maintenant les ESPE, les écoles supérieures du professorat, qui ont remplacé les IUFM. Il y a assez peu de formation initiale pour enseigner en maternelle. Ça fait partie donc du grand choix de politique scolaire en France. On offre la possibilité aux élèves d'être scolarisés dès l'âge de 3 ans, mais leurs enseignants sont plutôt formés pour les plus grands.
Pour les plus grands, ouais.
Voilà.
Alors, vous qui êtes enseignant, justement, comment on le devient? C'est un choix,
oui.
Ça s'apprend.
C'est la dimension administrative.
Alors, si on n'apprend pas dans ces écoles d'enseignants, on va se former soi-même. Il y a encore le désir d'apprendre, je veux dire, qui joue.
Oui, on va se former soi-même, on se forme sur le tas. Il y a une association à laquelle j'ai adhéré qui s'appelle l'Association Générale des Enseignants d'École Maternelle, qui est une association qui regroupe les enseignants de maternelle qui sont motivés justement pour défendre un esprit qui serait spécifique à l'école maternelle. Alors, si on devait le définir, c'est une sorte d'équilibre très subtil entre jouer et apprendre. Le jeu, encore une fois, est naturel. Le jeu apparaît très très tôt chez l'enfant. Il est entretenu en principe à l'école maternelle dans la perspective des apprentissages. Voilà. C'est la spécificité de l'école maternelle. À l'école élémentaire, cette part-là se réduit beaucoup, voire disparaît. Malheureusement, peut-être. Et on en est là, voilà. Donc, qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Qu'est-ce qui fait un mauvais enseignant? C'est tout un débat. Et je crois qu'on n'a pas trouvé la réponse. Voilà.
Bon, et ben voilà, ça fait. Oui, mais bon, donc c'est pour ça que c'est très difficile cette histoire de lecture. On peut pas. Je crois qu'il y a une règle. On peut pas vouloir à la place des gens. On peut pas vouloir que tous les enfants sachent lire, que tout le monde se mette à lire tous les livres de tout le monde. Je crois que voilà, c'est complexe. Ça demande un vrai travail. Ça demande de montrer l'exemple. C'est sûr que dans une famille où personne lit pour différentes raisons, je veux dire, c'est plus difficile. Mais pour autant, on peut être dans une famille de lecteurs et avoir des enfants qui lisent pas, c'est parfois étonnant, quoi. C'est difficile de comprendre ce qui a pu se passer, ou est-ce que il y a eu un grain de sable dans les rouages.
Il y a quand même des constantes. En général, un enfant qui naît dans une famille où on lit beaucoup lira beaucoup, et inversement, il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions parce que c'est des histoires justement subjectives. Maintenant, c'est aussi une réalité sociologique qu'on peut difficilement ignorer. Voilà, moi je crois que ce qui fait un bon enseignant, c'est le désir maintenu d'apprendre. Voilà, celui qui enseigne, c'est celui qui a lui-même appris et qui continue d'apprendre et qui a le désir d'apprendre.
Pour lui-même déjà.
Pour lui-même. Ouais. Et la situation de classe est une situation éminemment instructive. C'est une situation d'une immense richesse où effectivement on recrée un peu une société, on réinvente la poudre, on réinvente l'écriture, on réinvente voilà, l'art, et c'est très touchant de voir à quel point les enfants les plus jeunes ont déjà un désir de créer, un désir de s'affirmer, un désir de s'épanouir. Même les enfants les plus défavorisés peuvent y parvenir à l'école.
En tout cas, je retiens un truc qui me paraissait pas évident que vous avez dit tout au début, c'est que le livre, c'est d'abord un objet dont on s'empare physiquement, mm-hmm. quitte à le déchirer, à se le jeter à la figure.
Oui, c'est vrai.
Et donc, même dans une famille où on ne sait pas lire, on pourrait donc avoir des livres-objets dont on servirait pour, quand on se dispute entre adultes, à s'envoyer à la figure, pour qu'au moins, le livre, ce soit un objet relationnel habituel de l'enfant, etc.
Oui.
C'est une idée, ça. Donc, on devrait dire à tout le monde...
Les livres pour les plus petits, en général, sont très solides. Voilà, c'est fait pour ça.
Ouais,
du tissu, ou vraiment du gros carton, des bonnes reliures. Mmh. On peut y aller, quoi.
Il y a même des livres qui se mangent.
Oui, il y a des livres qui sont faits pour le bain, qu'on peut mettre à la bouche, bien sûr.
D'accord. Donc, le livre partout, et donc on peut en avoir partout.
Oui, on peut en avoir partout.
On peut. Et puis, on peut accepter, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que les livres soient abîmés, déchirés. On doit pouvoir accepter un enfant qui désire... Est-ce que justement, on ne risque pas de le bloquer si on l'engueule à chaque fois qu'il corne un livre ou qu'il le déchire ?
Non, il faut. Ça, c'est aussi un aspect de l'école, hein, de respecter le matériel, d'apprendre à ranger. Mais on part d'une situation où ce respect-là n'est pas acquis. Voilà. Mmh. Il faut partir de cette réalité-là. Ouais. Justement, le respect viendra par la conscience de l'enjeu, la conscience de ce que renferme un livre. Un gros livre, c'est du temps vécu, c'est une promesse, un dialogue, c'est beaucoup de choses.
Ouais. Et c'est du travail aussi, c'est du travail de tout un tas de gens qui ont fabriqué ce livre.
Oui, c'est vrai.
On en parlera un de ces jours, je m'étais dit que j'en parlerais peut-être cette fois-ci, mais justement, tous ces gens qui fabriquent les livres, un imprimeur, on va en parler puisque je vais annoncer la sortie de récents livres.
Très bien.
Parce qu'il y a du travail de... Voilà, ben on va en rester là en ce qui concerne notre petit entretien. Merci Fabrice pour tout ce que vous nous avez appris. Donc,
merci à vous.
Mais c'était très intéressant et ça lance la réflexion sur... les politiques ont beau dire des bêtises, il faut travailler pour que la lecture se fasse, et puis il faut donner envie, il faut que l'envie vienne. Mm-hmm. Voilà, les méthodes changent, alors peut-être qu'on avance. Voilà.
J'espère bien.
Merci.
Merci à vous.
Musique, c'est ça, voilà, que je vois dans ton regard, Jean. Eh bien oui, musique. Allez, c'est parti avec Bert Jansch. C'est ça qu'on a dit à l'heure. Hein, c'est pas mal.
C'est encore un musicien, un guitariste anglais.
Et voilà. C'est Blackbird in the Morning, on écoute.
Blackbird in the morning, won't you sing my love a song? Wake up with a sweet melody. Sing out a perfect solo, let your clear voice fill the air, and let the new morning chorus begin. Give a heart when she feels down, lift her for the day, and make it nice and easy going on her way. All day long I think about her, can't live the night without her. For me now I want no other, till the day that I die. Blackbird in the morning, sing my lover's song. Wake up with a sweet melody. About her, can't live the night without her. For for me now, I want no other. Tune and day, da, da, da. The blackbird in the evening, under the shining stars, sing out your sweet lullaby. Sing gently beneath the moonlight, deep into the night. Let her sleep, let her dream like a child. And give her peace of mind, give her love until the break of dawn. Then wake her up with a new morning song. For day long I think about her, can't live the night without her. For me now I want no other, till the day that I had her. So sing out a perfect solo, let your clear voice fill the air, and let the new morning chorus begin. Let her heart sing, give her everything.
Voilà, donc c'était le guitariste Bertie Hansch. Voilà, donc on passe à la dernière partie de l'émission, qui est la partie pub. Hein, on va parler des éditions Parole. Donc je voulais deux choses. Parler des dernières parutions qui sont intervenues depuis qu'on ne s'est pas vu, depuis le début de l'été. Donc on en avait peut-être déjà parlé. Il y a eu un livre sur Ambroise Paré qui s'appelle « Moi, Ambroise Paré ». Chirurgien de guerre, aimé des rois et des pauvres gens, qui est écrit par un chirurgien lui-même qui s'est mis à la place d'Ambroise Paré. Alors Ambroise Paré, c'est un personnage, on dit toujours que c'est le père de la chirurgie moderne. En fait, c'était un homme qui avait du courage et qui a osé faire un certain nombre de choses. Il a beaucoup été sur les champs de bataille et il s'est trouvé face à des situations. C'était un médecin d'urgence, hein, comme beaucoup d'urgentistes, et il ne s'est pas embarrassé de tout un tas de questions. Il fallait sauver des gens et il a osé faire des choses. Alors il a eu parfois des échecs, hein, mais il a osé faire des choses, en particulier utiliser des techniques totalement nouvelles face à parfois une université de médecine qui était opposée à ce qu'il faisait. En particulier, il a mis en application, il n'est pas l'inventeur de la ligature, mais il a beaucoup mis en application parce que précédemment, pour empêcher le sang de couler, on balançait de l'huile bouillante, quoi. Vous voyez déjà, quand on est blessé sur un champ de bataille, ça ne vous arrangeait pas la vie. Donc il s'arrangeait pour renverser les bassines d'huile bouillante et dire « j'ai plus d'huile, donc je vais faire des ligatures ». Et puis il a osé sortir un certain nombre de flèches, de lances du corps des gens. Il en a sauvé beaucoup comme ça. Bon, et il a eu une vie d'aventure. Il avait eu 80 ans. Et ce livre est écrit vraiment comme c'est les Trois Mousquetaires, quoi. C'est quelqu'un qui a eu une vie d'aventure, poursuivi par l'Inquisition. Il a attrapé la peste. Il a échappé à tout un tas. Il a été prisonnier de guerre. Il a été enlevé. Il a échappé à la Saint-Barthélemy parce qu'il avait sauvé des grandes familles comme les De Guise, etc. Donc voilà, et c'est vraiment passionnant. On apprend à la fois toute l'histoire, c'est vraiment à la fois un livre d'histoire comme on aimerait en avoir pu en lire à l'école, plutôt que parfois des choses très rébarbatives. Et puis c'est un livre où on découvre aussi le geste du chirurgien. C'est ça qui est intéressant, du fait que ça soit écrit par un chirurgien. Et puis c'est un livre d'aventure, il y a des histoires d'amour, il y a tout ça, enfin, je veux dire. Et c'est écrit à la première personne, donc Daniel Picard se met à la place vraiment il parle à la première personne, il se met à la place d'Ambroise Paré. Donc ça, c'était un des premiers livres. Ensuite on a sorti c'est le 80e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Espagne, hein, en 1936, c'était au mois de juillet. Le putsch des militaires avec Franco, qui aboutit à cette guerre civile effroyable qui a duré jusqu'en 1939. Et donc, on a dans Paroles d'avant l'oubli, qui est le livre d'Emma Sens d'Elzar, le récit de ce qu'on appelle la retirade, qui est l'exode des familles républicaines espagnoles face à l'avancée des troupes de Franco, et alors que les hommes combattaient pour retarder les autres ont passé les Pyrénées dans des conditions assez effroyables, pieds nus dans la neige et tout ça. Et donc Emma raconte, elle est née quelques mois avant, donc elle a passé les Pyrénées dans le ventre de sa mère. Et là, elle a repris tout ce que lui a raconté sa mère et comment ces gens vivaient d'abord en Espagne. On découvre dans les premiers chapitres comment étaient organisés les villages anarchistes, hein, avec la collectivisation de la terre, tout ça, c'est très intéressant, jusqu'à leur intégration, ce qu'ils ont combattu dans la résistance et tout ça, jusqu'à leur intégration en France. C'est assez éducatif parce que ça permet aussi de comprendre. Ils ont été mal accueillis comme ceux d'aujourd'hui, hein. Indifféremment, les immigrés sont toujours mal accueillis. Ils ont été parqués dans des camps, puisque c'est la France qui a inventé le mot de camp de concentration, avec les réfugiés espagnols qui ont été parqués sur des plages en particulier. Voilà, donc un très beau livre qui permet de vivre les choses presque de l'intérieur. Voilà, troisième livre, c'est Le jour maudit de Raymond Jardin. Alors c'est aussi un livre d'actualité, même si Raymond Jardin est décédé en 2013. On avait publié de lui La guerre des moissons, qui se passe à Saint-Julien-de-Montagné et sur le plateau de Valensole et dans les gorges du Verdon. Et Le jour maudit se passe un peu du côté d'Isola, mais c'est un sujet d'actualité parce que c'est ce que fait la nature avec beaucoup de violence quand elle s'énerve. Hein, c'est l'histoire d'une crue, d'un orage terrible, avec une crue terrible de la Tinée qu'emporte le village d'Isola. Isola porte bien son nom puisque c'était un village qui était construit sur une île entre deux bras d'une rivière. Et le jour où la rivière se remplit complètement, ben le village il décolle. Alors c'est un livre truculent comme sait les faire aussi Raymond Jardin, puisque on a plein des bandits, il y a plein de choses, des bandits qui vont essayer de sauver les gens. C'est intéressant, voilà. C'est un livre sur la violence aussi de la nature. Voilà. Et puis le tout dernier dont je voulais parler, c'est un livre qui sortira de l'imprimerie ce vendredi. Donc il est imprimé comme tous nos livres à l'imprimerie Horizon à Gémenos. Et c'est un livre de Nancy Houston. Donc Nancy nous a confié deux petits textes qui sont des essais et qu'on a mis tête bêche dans la collection Main de Femme. Donc il y a un côté qui s'appelle « Sois belle » qui s'adresse plutôt aux dames et l'autre côté « Sois fort » qui s'adresse plutôt aux messieurs et qui est justement cette espèce d'injonction que depuis beaucoup de temps dans l'humanité, les femmes et les hommes reçoivent et qui crée aussi beaucoup de difficultés et de souffrances. C'est un livre aussi où on parle de la difficulté d'être femme et d'être homme, des rapports entre les uns et les autres. Voilà, c'est vraiment un livre de débat sur... sur l'actualité, les genres, etc. Et donc, ce livre sort donc dans deux jours. Et on a donc invité Nancy à venir. Alors, on dit Nancy. Hein, on ne dit pas Nancy à l'américaine. On ne dit pas non plus Nancy comme la ville de Nancy. C'est entre les deux, c'est Nancy, voilà. Et voilà, donc elle viendra dans notre haut pays, puisque à l'issue du festival de Moinsartou, début octobre, où elle est invitée, elle passera deux jours dans notre région. Donc le dimanche 9 octobre, on la recevra à Vidauban, dans le Var. Et puis le lundi soir, 10 octobre, elle viendra au monastère de Ségriès, à côté de Moustier. Alors c'est intéressant parce que c'est un lien aussi avec Maria Borelli, puisque c'est dans son premier roman, souvent, Maria Borelli parle de ce monastère, qui est un très bel endroit magique. Donc on la recevra là pour une rencontre, lecture. Il y aura des lectures par des comédiens. Et puis elle nous expliquera un peu la raison d'être de son livre, son engagement dans ce monde où elle est très, très impliquée, aussi bien sur les questions du féminisme que de l'écologie. Voilà. Donc à Vidauban, le 9, à Moustier le 10 octobre, et ensuite elle sera à la librairie Caractère Libre d'Ops le mardi matin du 11 octobre. Voilà, donc tout ça, on va le mettre sur le site de la radio, puis sur le site des éditions Parole. Je crois que c'est une rencontre à ne pas rater. C'est vraiment quelque chose d'intéressant, et c'est vraiment un personnage, au-delà d'être un écrivain important, un personnage vraiment à rencontrer. Quoi. Voilà, donc, on vous invite tous à cette rencontre. Après, je sors mon petit calendrier. Parce qu'on me demande toujours s'il y a des soupes olives bientôt, évidemment. Donc, on pourra nous rencontrer. Alors, demain soir, il y a une lecture de l'Homme-Semence à Ségriès. Hein. Ensuite, on peut nous rencontrer au Salon du Livre d'Embrun tout le week-end. Ensuite, il y aura deux choses. Il y a la fête de l'agriculture paysanne dans le Var le samedi 24 septembre. Ensuite, il y a la fête du parc naturel régional du Verdon à Trigance le dimanche 25, où on sera présent. Ensuite, on parlait du livre sur la retirade. On fera des lectures à Cabestany, qui est pas loin de la frontière espagnole, le jeudi 29. Il y aura une soupe aux livres le 1er octobre à La Croix et le 7 octobre à Saint-Étienne-les-Orgues, donc dans le département. Et voilà. Et ensuite, donc, on a vu 9, 10, 11 octobre la présence de Nancy Houston dans notre haut pays. Voilà, ben après, on reparlera des autres dates parce qu'il y en a d'autres. Mais c'était pour l'instant celle qui concernait les moments les plus récents. Voilà, voilà. Je te dis, je crois. Tout d'un coup, comme ça, j'ai tout avalé. Bon, mais on retrouve tout sur notre site. Et puis, on en reparlera à la prochaine émission. C'est quoi le deuxième
Alors, normalement, le deuxième mercredi du mois, ça fera quand ça...
Le 12 octobre.
Ce sera le 12 juste octobre. Après alors, est-ce que tu seras disponible, Jean?
Oui, ben bah oui. Oui voilà, on fera le bilan, peut-être, de cette rencontre avec Nancy Houston. Voilà. On va pas à moins de faire cette émission le 5 octobre pour en parler avant.
C'est comme tu veux. Le tout, c'est qu'on donne le rendez-vous aux oui. auditeurs.
Oui.
Peut-être le mercredi 5, alors ?
Par exemple.
Ouais. Allez.
Comme ça, on fera une piqûre de rappel pour cette rencontre du 10 octobre à Ségriès. Wally, voilà, ben on approche de l'heure. On se met un petit bout de musique et puis on en termine là. En tout cas, merci d'avoir écouté. Merci à notre invité d'avoir si bien parlé. On découvre un petit peu. Moi, je découvrais, parce que c'était justement une interrogation, le travail que font les enseignants, qui sont souvent décriés, le travail que font les enseignants avec beaucoup de dévouement, on s'en aperçoit, qui se forment même pour pouvoir faire leur boulot avec beaucoup de résultats, enfin avec les résultats qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est étonnant. Et puis, on voit que les choses évoluent, que un petit peu, on est dans des... Il y a toujours des nouveaux programmes. On se demande toujours pourquoi les programmes changent. Tout le monde râle en disant les programmes changent tout le temps avec les gouvernements. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi ce qu'on découvre, que dans d'autres pays, il y a des avancées.
C'est ça. On peut espérer qu'on arrivera à une prise en considération de ce qui est considéré de par le monde comme la meilleure éducation possible à l'école. Ouais. Il faut savoir qu'en Allemagne, avant l'âge de 7 ans, les enfants ne sont pas pris en charge par des enseignants, mais par l'équivalent de nos éducateurs ici et les animateurs de centres de vacances, de centres de loisirs.
D'accord. Voilà.
Ça pose question.
Ouais. Mais du coup, c'est pas pour ça qu'ils savent pas lire.
Justement pas. C'est pas du tout le même système. Et voilà, on n'a pas véritablement affaire à une école.
On est plus dans le jeu, comme on dit.
En Allemagne, on est plus dans le jeu et la dimension essentielle mise en avant, c'est le bien-être de l'enfant.
D'accord. Et puis il y a aussi toute la sociabilisation de l'enfant avec les autres.
Oui, ce qui en France est. Une question intéressante en France, c'est la scolarisation des 2-3 ans. On s'est rendu compte que c'était pas si constructif. Mmh. Voilà, on revient là-dessus. On se pose beaucoup de questions sur ce que doit être le bien-être de l'enfant à l'école. Et c'est aussi évidemment une part essentielle pour son avenir. Mmh. Voilà.
Et donc, pour un enseignant, ça demande de se poser les questions tout le temps, de se reformer.
Oui, ça, c'est la réalité du quotidien de l'enseignant qui sans cesse se demande de quoi sera faite la suite, comment il doit reprendre, améliorer, remettre en question son fonctionnement. Oh, oui. Mm-hmm. C'est inévitable.
Mm. Bon, et ben voilà, bien sûr, ces bonnes paroles. On va mettre un tout petit peu de musique, Afrika Yoli, et puis après, ça sera les informations. Donc, on est bien sur Fréquence Mistral et on termine cette émission Les Livres ont la parole pour ce mois de septembre. Et bien, à bientôt.
Au revoir.
5 octobre.
Revoir, 5 merci. Octobre, mercredi, voilà. 16h30 à 18h.
Merci
au revoir.
À tout le monde. Merci, Odile. The book.